Le chien du mariage. Ce soir-là, le dernier jour de notre mariage, mon mari et moi sommes allés voir un ballet. On s'est assis derrière un non-voyant. Son chien guide, en harnais, était allongé à côté de lui dans l'allée entre les gradins. Je n'arrivais pas à me concentrer sur la représentation. À la place, je regardais le chien, regardais la représentation. Tout au long de la soirée, la tête du chien bougeait, suivait les danseurs dans leurs mouvements sur scène. De temps à autre, le chien se mettait à gémir légèrement. Mon mari m'a demandé « Parce qu'il peut entendre des notes aiguës que nous on n'entend pas ?» Et j'ai dit « Non, car il n'approuve pas la chorégraphie. » Je travaille avec ces chiens tous les jours et quand je pense à leur capacité, à leur bonté, je me sens minuscule. J'essaye de ne pas me sentir trop visé. C'est un conseil que m'a donné une dresseuse du centre où je forme ces chiens. Elle m'avait entendu demander à un labrador retriever « Tu veux vraiment me gâcher la journée ?» Je suppose qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne devrait pas se sentir visé. L'absence de place de parking quand ça nous arrange, une météo rigoureuse, un mari qui découvre qu'il aime quelqu'un d'autre. Quand je déprime, j'emmène un chien guide retraité et je fais un tour à l'hôpital d'à côté. Ça vaut pour n'importe quelle période, mais pendant les fêtes, c'est encore mieux. Je peux déguiser un chien de berger en petit Père Noël et aller à l'hôpital catholique, débarquer pendant la séance d'aide spirituelle du matin. Une fois, j'ai entendu une sœur demander à un patient si l'examen prévu pour lui l'après-midi même était source d'angoisse, et le patient, un jeune homme, a répondu à la sœur qu'il ne savait pas qu'un examen était prévu, mais que maintenant qu'il savait, il pouvait dire le plus sincèrement du monde que oui, il était nerveux. Ensuite, il a vu le Père Noël dans le couloir de l'autre côté de la porte et il a dit « Mon Dieu, faites venir ce chien !» Voilà le genre de service qu'on rend. Techniquement, ce dont je m'occupe s'apparente à de la pré-formation. Je leur apprends l'obéissance de base et un peu plus. Si j'y parviens et que le chien a le tempérament requis, un dresseur plus expérimenté travaillera plusieurs mois avec lui pour en faire un guide. Je ne connais personne qui soit non-voyant, je fais ça pour les chiens. Cela dit, je me souviens de l'entretien d'embauche que j'ai eu avant ce boulot. J'ai cru que ça pourrait me plaire de travailler dans le milieu de la musique, mais mon mari m'a encouragé à retrouver mes premières amours, les chiens. Celui qui aurait pu devenir mon employeur dans cette maison de disques m'a demandé pourquoi je voulais y travailler. J'ai dit « Parce que j'aime la musique ». Et il a répondu « Peut-être qu'une histoire d'amour fonctionne mieux en dehors du bureau ». Au début, mon mari voulait savoir « Est-ce que les chiens guides sont heureux ?» J'y ai réfléchi et j'ai cité un expert. D'après lui, le bonheur d'un animal dépend de son efficacité à remplir sa fonction. Donc, dans cette optique, oui, j'ai dit « Je pense que les chiens guides sont heureux ». Alors pourquoi ils ressemblent tous à Eleanor Roosevelt, il m'a demandé. Je lui ai expliqué comment ils font pour parvenir à nous connaître. Pas comme une personne pourrait nous connaître, pas comme ceux qui nous flattent en voulant tout savoir, sauf que ça n'a rien à voir avec de la politesse, c'est juste une histoire d'efficacité, parvenir le plus vite possible à ses fins. Je corrige. Les chiens veulent tout connaître de nous. Ils s'emparent de notre odeur, et depuis la pièce voisine, même endormie, ils sentent quand un coup de blouse nous tombe dessus. La différence, c'est que ça n'a pas de fin. Si la conversation avait lieu aujourd'hui, je pourrais parler à mon mari de Goodman dans le jardin. Goodman, je l'ai élevé moi-même, un labrador noir et robuste, puis au bout d'un an, j'ai dû le laisser partir, comme ça arrive, pour un entraînement approfondi et une vie en compagnie d'Alice Banks. Alice s'occupait de jardin. Elle et son mari aimaient se détendre pendant les week-ends en cultivant des parterres de plantes annuelles et différents types de tomates. Lorsqu'Alice et Goodman ont réussi leur examen, Alice m'a invité à rester en contact. C'est toujours au non-voyant de décider. Nous avons correspondu pendant plusieurs mois et au printemps, je lui ai envoyé plusieurs petites choses pour son jardin. Ensuite, j'ai reçu une lettre de Paul, le mari d'Alice. Dans cette lettre, il me racontait qu'ils avaient arraché les mauvaises herbes, Goodman, de repos, joué à rapporter la balle. Lorsqu'il s'est retrouvé dans le carré de tomates, il a mis quelque chose dans sa gueule et il a commencé à japper, tout excité, puis à lancer la chose en question dans les airs et à tourner autour de lui-même pour l'attraper. Ce que Paul m'expliquait, c'est que Goodman avait trouvé l'un des sachets que j'avais préparé pour tenir les serres à distance, de l'étamine rembourrée avec mes cheveux. Voilà comment je veux qu'on me connaisse. Ceci est un extrait de la nouvelle « Le chien du mariage », extraite du recueil du même nom d'Amy Hempel, ceci aux éditions Cambourakis, dans une traduction de l'anglais américain de Guillaume Vissac. C'est une découverte pour moi que cet auteur, Amy Hempel, née en 1951, Elle a grandi à Chicago et à Denver, puis elle s'est installée à San Francisco et ensuite New York. Elle a connu une série de drames familiaux et personnels, c'est comme ça qu'on la présente dans l'argumentaire de presse, et elle a derrière elle une œuvre assez singulière et surtout très brève. Elle n'a que 4 recueils à son actif depuis 1985, ça n'est donc certainement pas une graphomane, et Le chien du mariage, celui que vous aurez l'occasion de découvrir aux éditions Cambourakis, date déjà d'il y a plus de 10 ans. Alors c'est un ensemble de 9 nouvelles qui vont de la nouvelle la plus courte possible avec seulement 2 lignes et qui est comme un cri du cœur, jusqu'à des nouvelles un peu plus longues, un peu plus développées, comme celle par exemple qui clôt l'ouvrage c'est un lapsus révélateur, les chiens sont très présents dans le recueil, qui clôt l'ouvrage sous le titre Offertoire. Alors toujours assez difficile de résumer les nouvelles qui ont des tonalités différentes, qui racontent des histoires différentes, bien évidemment. On peut en tout cas remarquer que ce sont essentiellement et exclusivement des femmes à qui Amy Hempel donne sa voix, des narratrices qui nous font pénétrer dans leur existence, des existences qui sont souvent extrêmement fragiles, en tout cas qui ont été blessées, des blessures qui ne transforment absolument pas ces narratrices en passionnariat féministe, mais leur donnent des fragilités, des nuances dans la manière dont elles présentent les événements, une capacité à dire en quelques mots très rapides, parfois presque sans s'y attarder, sans y toucher presque, des drames qui auraient pu se dérouler dans leur existence. Je pense ici tout notamment à un texte qui s'appelle « Les intrus », qui nous découvre une quinquagénaire qui nous raconte dans quelles circonstances elle va décider de passer un examen pour faire un test de grossesse et dans quelles circonstances elle s'est retrouvée enceinte. Tout cela touche à ce qu'il y a évidemment de plus terrible dans l'existence d'une femme, le viol, mais c'est abordé de manière extrêmement délicate et en même temps très sensible et sans jamais s'y attarder, avec cette espèce de pudeur incroyable que les narratrices de Amy Hempel sont capables d'avoir tout au long de ce livre. Elles disent des choses extraordinaires, mais elles les disent avec énormément de pudeur, je le disais, avec cette délicatesse et cette tendresse, avec cette distance protectrice sans doute qui permet de ne pas s'effondrer, parce qu'il y a derrière tout cela la fragilité des rapports humains et surtout la violence qu'exercent parfois les hommes contre les femmes, sans que ce soit la thématique centrale et essentielle du recueil. C'est en tout cas une des dimensions très présentes. Alors le viol est sans doute le côté le plus extrême de ces relations entre hommes et femmes, telles que Amy Hempel les met en scène, mais il y a aussi tout simplement ces rapports amoureux de ces maris qui à un moment se détournent, de ces êtres qui s'éloignent, de ces divorces qui s'installent dans une existence, de ces tromperies, par exemple dans Bord de mer qui ouvre le texte, où la narratrice surprend ce qui se passe dans le jardin des voisins et comprend que le mari de sa voisine trompe celle-ci avec une autre femme. Donc toutes ces petites entailles, ces écorchures, ces blessures qui, ajoutées les unes aux autres, font évidemment violence à celles qui parlent, à celles qui disent leur douleur et qui en même temps ont des capacités humoristiques incroyables, tout aussi d'ailleurs délicates et nuancées. Il y a des sourires qui s'échappent dans la lecture d'Amy Hempel. On a ces moments un peu fugitifs, un peu fugaces où derrière ce qu'on pense être une fêlure, un moment d'éclat, une sorte de petite parole qui vient tout illuminer pendant quelques instants, qui vient tout réveiller et transformer pour nous montrer qu'elles ont aussi volontairement ou involontairement, je ne sais pas, en tout cas une certaine distance un peu humoristique, un peu distancée avec leur parcours, avec leurs existences, et notamment dans le texte, par exemple, « Les trucs blancs », la narratrice qui est obligée, elle aussi, de subir des examens médicaux et qui, par un raccourci incroyable, va mettre en relation ce qu'elle voit sur les radiographies qui ont été réalisées par son médecin et une conférence à laquelle elle a pu assister en peinture. Et le raccourci est à la fois d'une incroyable émotion, puisqu'il fait surgir un questionnement vraiment très, très puissant et très intime en rapport avec cette maladie, avec cette menace qui semble la guetter et qui, en même temps, par son parasitisme du discours clinique, avec cette irruption de l'art et de la peinture dans le discours médical, vient tout faire vaciller, vient amener une sorte de sourire stupéfait, où on se demande finalement dans quelle mesure le discours est encore conscient et ce qui est en train de se dérouler dans l'esprit de cette femme à qui on annonce de si mauvaises nouvelles. Voilà, et tout fonctionne constamment sur cette espèce de déséquilibre fragile et aérien. Enfin, Camille Hempel est capable de tenir tout au long de ses textes avec des nuances qui sont presque imperceptibles et que Guillaume Vissac a réussi à retranscrire dans sa traduction française, ce qui a dû demander énormément également de doigté, je pense, pour maintenir cette espèce d'état presque somnambulique ou funambulique de l'écriture d'Amy Hempel qui traverse comme ça les pages et qui, je le disais, aussi bien sur deux lignes que sur quelques pages, nous met toujours en état de vacillation, d'incertitude, de tremblement, pourrais-je presque dire, parce qu'on est dans cet état d'attention, d'écoute extrême, car on sait qu'au détour d'un mot, au détour presque d'une virgule, se joue l'essentiel d'un être, ce qui le lie au monde, et surtout ce qui pourrait éventuellement l'amener dans une autre dimension. Et ce sont toujours les chiens qui sont les vecteurs de ces possibles passages, de ces possibles traversées, de ces irruptions de l'amour dans sa dimension la plus extrême, la plus absolue, la plus ouverte. On l'a entendu, je pense, dans l'extrait que je vous ai lu, où on devine que cette femme qui éduque des chiens qui deviendront ensuite des guides d'aveugles, l'affection et l'amour qu'elle porte aux animaux, aux chiens, à ce qu'elle voit comme véritablement des êtres porteurs d'une dimension qui peut-être fait parfois défaut à l'homme, et qui en tout cas, elle, aimerait voir une partie de cette animalité canine peut-être se diffuser chez les hommes et faire qu'eux aussi seraient capables de s'attacher avec la même passion, avec la même force, avec la même dévotion à ceux à qui on les consacre, se destiner à aider et secourir et surtout se destiner à aimer avec le même caractère inconditionnel. Tout cela bien évidemment très éloigné des expériences humaines qu'elle nous retranscrit. Mais ces chiens sont là, traversent les pages, là aussi, font des apparitions fugitives, nous font sourire ou au contraire nous font peur. Ils sont capables de tisser des liens vers des mondes peut-être parfois inquiétants aussi, mais ils sont les vecteurs véritablement d'une animalité, d'une vie sauvage qu'à aucun moment Amy Hempel ne cherche à délaisser, bien au contraire, et que toute son œuvre ici rassemblée, les 9 nouvelles que nous propose Le Chien du Mariage, tendent dans une direction que je vous invite véritablement à découvrir. Un très très beau texte, Le Chien du Mariage d'Amy Hempel, est disponible aux éditions Cambourakis, et c'est une traduction de l'anglais américain de Guillaume Vissac.